Bonjour et bienvenue au balado « Mieux connaître, mieux choisir », une initiative du Carrefour Jeunesse Emploi et d'Accès Travail Portneuf, vous permettant de découvrir plusieurs métiers du marché du travail.
Bonjour, bienvenue au podcast « Mieux connaître, mieux choisir ». Aujourd'hui, nous recevons Amélie Plamondon, éducatrice à la petite enfance. Je suis accompagnée de ma collègue Vicky. Bonjour Amélie, merci d'être parmi nous aujourd'hui.
Bienvenue, ça me fait plaisir.
Donc, d'entrée de jeu, on aurait une première question pour toi. Donc, on aimerait savoir en quoi consiste ton métier par rapport, en fait, à la vision que les gens peuvent avoir quand tu dis que tu es éducatrice et versus la réalité.
Bon, bien, en fait, mon métier, c'est de prendre soin des enfants, principalement dans leur développement, les accompagner dans leur développement, que ce soit côté moteur, côté socio-affectif. Là, il va m'en manquer, hein, c'est bien sûr, il y en a quatre sur lesquels on se concentre. On a accès à faire des activités avec eux dans tous les moments de la journée. Donc voilà, pour le développement des enfants. Puis bien, peut-être versus ce que les gens peuvent avoir en tête, bien, je pense que les gens nous voient plus comme des gardiennes aussi à l'occasion, beaucoup, là. Fait que on se fait appeler souvent comme ça, les gardiennes d'enfants. Mais c'est beaucoup plus que ça, là. On n'est pas juste là en surveillance à s'assurer que l'enfant ne tombe pas de sa balançoire ou quoi que ce soit. Là. Puis je pense que les gens, en général, voient peut-être moins tout cet aspect-là, là, tout qu'est-ce qu'on fait là, nous, côté du développement de l'enfant.
En fait, là, au niveau du développement, justement, c'est quoi les particularités qui sont reliées à la petite enfance?
C'est ça, pour les sphères de développement de l'enfant, ben, il y a l'aspect cognitif là, sur lequel on axe. Cognitif, ça peut être de faire des associations simplement les couleurs. Là. En fait, les enfants partent de zéro. Hein? Fait que nous, on est là pour les accompagner puis voir où ils sont rendus en fait, dans leur développement. Donc, c'est ça, on part de tout petit. Donc, c'est ça, découverte des couleurs, les parties du corps, compter. On part vraiment de ce niveau-là. Fait qu'on essaie de voir l'enfant, il est rendu où dans tout ça. Puis, on essaie de proposer des activités qui vont l'amener à intégrer des nouvelles connaissances. Il y a l'aspect langagier aussi qui est bien important, qui se développe les très, très petits. Hein, les enfants commencent à babiller des simples sons, puis ensuite, avec leurs sons, on commence à faire des mots. Donc, c'est tout le temps d'ajouter des mots à leur vocabulaire pour ensuite pouvoir faire des phrases, des demandes, pour pouvoir bien s'exprimer avec les gens qui les entourent. Puis des fois, justement, cet aspect-là les amène sur l'aspect socio-affectif aussi. T'sais, le langagier est très, très important dans les relations. Donc aussi, juste entre eux, les enfants, avec l'aspect langagier, ils vont développer là, un enfant qui se fait voler son ballon, il se fait enfarger, c'est pas de réagir physiquement. On va l'amener l'enfant à pouvoir s'exprimer et dire « Hey non, j'aime pas ça ce que tu me fais. » Puis si l'enfant est pas là pour écouter ou quoi que ce soit, il va venir vers nous, les adultes, pour pouvoir se faire assister, se faire aider. Puis aussi, il y a l'aspect moteur là, qui est là, de partir du bébé qui commence à bouger tous les membres de son corps. Ensuite de ça, d'être à quatre pattes, tranquillement être debout. Puis là, on y va là, plus difficilement là, ensuite... à monter sur des objets, les pousser, les tirer, grimper, tout ça là. Donc, puis ça, tout ça, finalement, on fait ça à travers le jeu. C'est comme notre vision là. On part du jeu pour pouvoir réussir à tout développer ces aspects-là chez l'enfant.
Au niveau du contexte, c'est sûr qu'il y a un contexte de groupe lié au groupe d'âge, mais de ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de besoins qui sont répondus de façon individuelle parce que les enfants ne sont pas rendus au même stade de développement, donc vous devez être sensible comme une éducatrice à essayer de voir là, au niveau individuel puis faire progresser aussi les enfants. Là.
Oui, tout à fait. Des fois, on s'axe plus, on propose des activités de groupe parce que c'est aussi entre eux qu'ils réussissent à développer chacun de leurs aspects, mais c'est sûr, des fois, dans le plus individuel, nous, on est là en observation aussi. Donc, oui, on est là en action avec les enfants, mais aussi beaucoup en observation, principalement aussi dans les jeux libres, là, quand ils sont dehors ou quand on propose des trucs dans les locaux. Nous, on est là avec nos yeux, nos oreilles, puis on se prend des notes aussi pour pouvoir nous guider, pour ensuite de ça proposer des activités que là, ils vont pouvoir les aider à monter une marche supplémentaires là, dans leurs connaissances, leurs compétences. Donc, oui, autant au niveau un à un, puis aussi là, vraiment en groupe pour développer aussi l'aspect beaucoup socio-affectif. Puis ça, c'est de longue haleine aussi. Là, un enfant qui va dire à l'autre j'aime pas ça, tu me pousses, bien, on est rendu peut-être à 4 ans, là, donc de 0 au 4, il y a du chemin à faire, du langage à connaître, des mots, des habitudes, puis aussi côté émotion. Bien, il y a beaucoup de travail à faire aussi parfois de ce côté-là. Là. Il y en a des fois la colère, la tristesse, c'est très explosif. Là. Donc, il faut aller mettre, nous, des mots sur comment que l'enfant se sent, sur « Ah oui, t'as pas aimé ça, tu t'es senti triste. Tu peux le dire à l'autre, ça me rend triste que tu brises ma feuille que j'ai récoltée dehors, là, un érable qui a tombé une feuille, puis bon, tu me l'as cassé, mais j'ai de la peine. » Mais de le dire à notre enfant « Je suis triste, j'ai pas aimé ça que tu me brises ma feuille », bien, c'est ça, c'est de longue haleine d'acquérir ça.
Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est de l'accompagnement sur tous les niveaux, dans le fond, là, du développement de l'enfant.
Oui, oui.
Puis, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, ça ressemble à quoi une journée type? Mettons, quand tu rentres le matin, ça commence par quoi, puis ça finit par quoi?
Moi, je suis en contexte de CPE. On est plusieurs groupes, plusieurs éducatrices et beaucoup d'enfants. Ce qui fait en sorte que les heures d'ouverture sont très grandes, ce qui fait que des enfants arrivent très tôt, partent très tôt ou très tard. Là. Donc, les heures d'entrée des éducatrices sont aux 15 minutes, disons. Là. Ce qui fait en sorte qu'en début de journée, c'est certaines éducatrices qui sont là et qui quittent plus tôt le soir et que d'autres éducatrices entrent plus tard, pour quitter et fermer le CPE. Donc, ce qui fait en sorte que le tout début de journée, ça commence avec l'accueil des enfants dans des locaux spécifiques. Donc, les parents viennent déposer leurs enfants, donnent leur message, voir s'il y a des trucs particuliers. Je ne sais pas, moi, il n'a pas bien dormi ou il a mangé, il ne voulait pas de déjeuner. Des messages comme ça. Donc, jusqu'à temps qu'on se rende à la collation, c'est de l'intégration comme ça, là, l'accueil qu'on fait avec les enfants. Ensuite de ça, les groupes sont tous divisés. Chaque enfant va dans leur groupe. Donc, collation, hygiène, pour tout le monde, en fait, toilette, tout ça. Et ensuite de ça, on est ou dans les jeux, ou dans les activités proposées, ou dans les activités extérieures aussi, là, aller jouer dehors. C'est sûr que plus le temps avance, je pense que les gens comprennent beaucoup l'importance d'aller dehors, d'être dans la nature, de bouger. C'est vraiment un lieu où les enfants peuvent crier, sauter, vider leur trop-plein d'énergie. Donc, on utilise beaucoup, de plus en plus, ces périodes-là, on les allonge. En tout cas, moi, ce que je remarque, puis ce qui est très, très bon et apprécié des enfants. Puis, on peut aussi proposer des activités dirigées dans ces moments-là. Là. On peut être dehors puis proposer peu importe quelle course. On va aller développer le côté moteur. On peut faire une ronde ensemble, faire une chanson. On est dans le langagier. Ensuite de ça, encore une fois dans la ronde, de juste prêter le ballon à l'autre qui est à côté de soi, c'est du socio-affectif. On est vraiment... chaque activité développe chaque sphère. Certaines activités sont plus centrées sur un type, mais on est vraiment en tout moment dans le développement de l'enfant, puis on est là pour accompagner l'enfant. Là, je suis rendue à être dehors jouer, on rentre pour le dîner, ensuite, encore une fois, l'hygiène, mains, toilettes, dents aussi, puis le dodo qui vient. Pour les enfants en bas de 5 ans, c'est le repos est très important pour beaucoup d'aspects. Là. Un enfant qui est reposé va être beaucoup plus enclin à être à l'écoute, à gérer ses émotions. Il va pouvoir intégrer aussi pendant son sommeil toutes les aptitudes qu'il a eues, les événements qui ont pu se passer dans la journée. Il va intégrer tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de positifs. Donc, pour la petite enfance, c'est bien important la période de repos. Au réveil, on mange. Des fois, c'est drôle, hein? On mange, on se couche, puis on se relève, on mange. Mais ça aussi, c'est important pour les enfants de bien s'alimenter. Puis ensuite de ça, ça dépend beaucoup de la température aussi. Là, les journées, on suit beaucoup ça. Où qu'on finit la journée à être à l'intérieur ou on va à l'extérieur. Là, on a aussi une salle de jeu. qui est comme une salle de motricité, là, où il y a des blocs de mousse que les gens peuvent embarquer, les enfants peuvent embarquer. Il y a des ballons, des trucs à rouler, des murs d'escalade. Donc, c'est vraiment une salle de motricité qui peut être intéressante, là, des journées de pluie, là. Donc, ça peut être super. Puis, la fin de journée, ben un petit peu comme le matin, ben là, c'est le départ des enfants. Donc, tranquillement, les éducatrices quittent, les premières qui étaient arrivées. Donc, tranquillement, les enfants quittent, puis jusqu'à la fermeture, là, c'est comme ça.
Tu as parlé beaucoup d'activités, au niveau du développement des quatre facettes qu'on discute là, depuis tantôt. Est-ce qu'il y a un temps dans ta journée pour de la planification, structurer ta journée qui s'en vient? Comment ça fonctionne?
C'est intéressant, dans le fond, c'est les milieux sont ben, fonctionnent peut-être tous différemment. Là. Je sais qu'il y en a que c'est une heure le matin ou deux, trois jours, quelque chose comme ça. Ou, il y a vraiment plusieurs façons de fonctionner. Moi, dans mon milieu, c'est des blocs de 4 heures qui nous sont réservés aux quelques semaines là, pour pouvoir planifier selon les thématiques qu'on a pensées. Juste thématiques, mais d'autres, ils vont même pas avec ça. Là. Ils vont vraiment selon les intérêts des enfants. Là, de quoi les enfants parlent, ils jouent de quoi à eux quand ils sont dans le jeu libre. Ben, on continue, pas qu'on paye sur le clou, on y va vraiment dans l'acte des enfants. Donc, on a notre période de temps pour autant laver notre local, là, les jeux. C'est sûr qu'il y a de la désinfection au travers, tout ça par d'autres collègues. Là. S'assurer que de la sécurité de notre local. Oui, penser à nos activités, préparer notre matériel, voir qu'est-ce qui manque. Est-ce que aussi dans mon groupe, j'ai un copain qui a des besoins plus spécifiques? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Est-ce qu'il y a une collègue à qui je peux parler, prendre un temps, discuter, voir elle, qu'est-ce qu'elle en pense? Et aussi ben, d'aller chercher des outils de travail là, des fois quand c'est nécessaire pour certains enfants.
OK, donc il y a quand même une ouverture puis un espace pour planifier puis structurer les besoins des enfants, les activités, tout ça. Là.
Oui. Ben, c'est un aspect important justement pour pouvoir aussi être créatif, pour y aller avec les intérêts des enfants, comme j'ai pu dire, mais c'est ça, pour pouvoir se déposer et puis prendre le temps de penser, de placer nos trucs puis de se planifier pour avoir notre matériel et tout ça. Là.
Super intéressant. Puis, en termes d'heures par semaine, combien d'heures par semaine tu es appelée à faire? À quoi ressemble ton horaire? Puis, est-ce que tu fais du temps supplémentaire?
Mon horaire de travail est à peu près 35 heures. On fait quand même des bonnes journées là, au contour de 9 heures. Puis, nos horaires fonctionnent, nous, à 4 jours semaine. Donc, chaque éducatrice titulaire de groupe a une journée de congé. Puis sinon, ben c'est des remplaçantes là, qui font la cinquième journée, qui c'est ça leur poste de travail, dans le fond, d'être l'éducatrice remplaçante pour cette cinquième journée-là. Puis du temps supplémentaire, ben ça peut arriver, là, disons, je sais pas, mais une éducatrice qui est en fin de journée, elle ne file pas du tout, elle s'en va, ben il faut comme réussir à se rendre à la fin de la journée avec le ratio d'enfants. Là, c'est important de le respecter, là. Nous, c'est. Il faut toujours respecter un certain ratio éducatrice-enfant. Donc, c'est sûr que si jamais il y en a une qui part, ben, on s'ajuste tout un petit peu. Puis des fois, ben, bon, on a 15 minutes de plus. On a aussi les réunions d'équipe qui sont de soir. Fait que ça aussi, ça s'ajoute à nos tâches là, de se présenter à nos réunions d'équipe. Donc, oui, ça peut arriver qu'on fait un petit peu plus, mais en même temps...
Tu as parlé de ratio, en fait, ça ressemble à quoi ce ratio-là en termes d'éducatrice puis de nombre d'enfants?
À la pouponnière, ils doivent respecter un ratio de une éducatrice pour 5 enfants. Donc ça, c'est pouponnière jusqu'à 18 mois. Ensuite de ça, de 18 mois, je ne vais pas me tromper, de 18 mois à 3 ans, c'est un ratio de 1 pour 8. Et pour les 4 ans, c'est 1 pour 10. Donc, mais quoi que ça peut varier, on peut niveler certains groupes avec un copain de plus puis un copain de moins dans un groupe, peut-être qu'il y a des besoins de plus. Là. Comme moi, par exemple, mon groupe est de 7 parce que j'ai les tout petits, j'ai les 2 ans, mes petits. Donc, comme ça, ça me permet de mieux pouvoir gérer là, tout ça. Là, parce que, ben, disons, les couches, là, ben, c'est une bonne période là, quand c'est un derrière l'autre. Là, ça prend quand même une bonne période. Là, puis, ben, pratiquer le pot. Puis, ça, fait qu'on... puis c'est oui, on a des étapes qu'on franchit dans la journée, Mais c'est pas juste de franchir cette étape-là. Derrière ça, il y a aussi l'aspect éducatif de, ben, comme le pot, par exemple, ben, l'enfant est en train d'apprendre à être propre à sa propreté. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, l'habillage, un gros défi aussi pour certains, là, mettre le bras dans la bonne manche, zip le manteau, ouf, ça, c'est pas facile, mettre la tuque sur le pourbord, fait que tout ça, c'est ça, ils l'apprennent.
Est-ce que tu pourrais nous parler des défis quotidiens que tu peux rencontrer dans une journée?
Bien, c'est sûr que chaque enfant est unique. Chaque enfant a son vécu de famille, a son vécu avec même d'autres gens qui les entourent, et peut-être venu d'un autre milieu de garde avant. C'est est-ce qu'il y a de la fratrie aussi? Est-ce qu'il y a des frères sœurs en la maison? Bon, chaque enfant est différent, a déjà un bagage qu'il a avec lui, qui a déjà appris certaines choses au fil du temps. Donc, des fois, c'est ça, c'est d'accueillir l'enfant de cette façon-là. Puis des fois, ben, quand c'est des aspects qui sont peut-être moins bons pour lui, ben, on va essayer de le guider pour pouvoir développer autre chose. Là. Je pense principalement à des aptitudes sociales qui développent peut-être à la maison que, bon, c'est questionnable parfois. Ben, c'est ça, c'est de l'emmener à faire différemment pour que pour lui, ce soit bon, puis pour son être avec les autres aussi, ça se déroule mieux. Là.
C'est certain qu'au niveau de l'accompagnement de l'enfant est au centre de tes actions. Est-ce qu'il y a d'autres gens là, au quotidien avec qui tu es appelée à travailler et à collaborer?
Bien évidemment, toutes les autres éducatrices, mes collègues de travail, puis c'est ensemble qu'on réussit à s'entraider aussi par moment. Là. Des fois, quand il arrive des difficultés dans la journée ou juste un petit pépin de « bon, il y a un copain qui s'est tout mouillé le pantalon, mais la personne va s'occuper de mon groupe pendant que je vais changer l'enfant. » C'est vraiment de l'entraide qui est là entre nous. Il y a aussi les personnes qui sont là, qui sont au bureau, qui sont plus côté administratif, tout ça, mais qui donnent aussi un coup de pouce là, quand c'est nécessaire, aussi dans les relations avec les familles. C'est vers eux qu'on se réfère aussi. Puis plus largement que ça, ben je sais qu'il y a de l'aide pour de l'orthophonie. Auparavant, il y avait une technicienne, une éducatrice spécialisée qui, bon, probablement, on va en avoir un autre. Donc, ça aussi, c'est souvent une ressource très importante en milieu de garde. Puis, ben, toutes les organismes communautaires aussi, ben, sont bienvenus, là. Des fois, ben, ils font de la publicité, tout ça, puis ben, les familles peuvent participer à des activités ou des trucs informatifs, tout ça. Fait que, on réfère aussi des familles quand c'est nécessaire.
Et comment ça se passe, la collaboration avec les parents?
Ben ça, il y a de tout type. Autant que le parent qui collabore beaucoup, qui est très impliqué, qui pose des questions, qui s'informe, tout ça. Puis versus d'autres parents qui sont plus, pas déconnectés, mais...
Désengagés?
Moins, peut-être moins engagés là, envers ce qui se passe pour leurs enfants. Ce qu'on peut observer qui n'est pas toujours le cas, mais souvent c'est plus d'ordre de social, là, de quel niveau dans la société ils sont. Là. Est-ce que c'est plus des familles défavorisées versus ceux qui sont plus en moyen? Ben, il y a des défis, ça aussi, là, c'est certain. Autant dans l'éducation que les parents peuvent avoir reçue que versus qui veulent être aussi comme parents. Bon, il y a de tout. Fait qu'autant qu'on peut en avoir qui sont très impliqués puis versus d'autres ben, plus désengagés. Puis ben, pour l'enfant, notre défi, c'est d'aller accrocher, aller faire un lien, de faire grandir le côté affectif aussi entre eux. Des fois, c'est là que c'est moins évident. Donc, comme essayer de les impliquer le plus possible puis de leur démontrer à quel point c'est bien, c'est positif, puis autant pour eux que pour l'enfant.
C'est super intéressant. Puis, à quoi ressemble, plus au niveau scolaire, à quoi ressemble ton parcours? Ben, en fait, scolaire et professionnel, là, les deux.
OK. Ben, j'ai un drôle de parcours, un peu. Pour moi, dans le fond, j'ai terminé mon secondaire et ensuite, je suis allée au cégep pour la technique de travail social que j'ai terminée. Et ensuite, après cette période scolaire-là, je sentais que j'avais vraiment un cerveau en bouillie, puis que je me sentais pas disponible pour être dans le social. Il y avait de la fatigue vraiment beaucoup à la fin de mes études,
Ben, j'avais besoin de faire autre chose, quelque chose de plus physique, manuel, tout ça. Je suis allée faire un DEP en peintre en bâtiment à l'EMOAC, l'École de construction au Québec. J'ai complété ce cours-là aussi. Moi, ce que j'allais chercher dans ce cours-là, ben, c'est que j'aime ce qui est artistique, puis utiliser mes mains, tout ça. Bon, ben, c'est ça, je voulais aller chercher. Puis vraiment pas dans une optique de faire ça comme carrière, pas du tout. C'était vraiment comme une année que je voulais être ailleurs, être active, apprendre quand même. Donc voilà, mais à la fin, les gens de mon entourage me disaient « Crème, essaye-le donc, les salaires, c'est bon, il y a des belles conditions, tout ça, tu prémets ça. » Enfin, je l'ai essayé, je suis allée pas très longtemps dans l'industrie de la construction. C'était pas un monde pour moi. J'étais pas bien là-dedans du tout. Donc, tu sais, j'ai relevé les défis que ça m'a apporté, mais au bout de ça, j'ai fait comme non, je suis pas là, je m'en vais pas par la pute. Donc, je me suis dit à moi-même, j'ai essayé, j'ai appris des trucs, je suis contente. Puis, ben, tu sais, on a construit notre maison, puis ça m'a beaucoup servi, là, tout ça. Tous les apprentissages, j'ai fait là. Donc, c'était pas perdu, mais c'était pas lié avec mes ambitions. Puis, ensuite de ça, je suis allée sur le marché du travail, je suis retournée en travail social. J'ai travaillé dans des organismes communautaires, j'ai démarré un projet communautaire aussi d'aide alimentaire pour les enfants. J'ai travaillé aussi en prévention de la violence faite aux enfants pour un organisme à Québec. Puis, tu sais, c'était toujours lié aux enfants, bien sûr, parce que c'est ce qui m'a toujours fait triper. J'aime leur énergie, ça apporte tellement de positif d'une journée à un enfant. Il y a toujours quelque chose qui nous fait sourire, qui nous fait rire, c'est le bout que je ne peux pas me passer. Donc, j'ai tout le temps travaillé avec les enfants. Puis même plus jeune, là, j'ai travaillé en camp de jour, j'ai gardé des enfants, tout ça. Donc, c'est ça pour mes expériences en communautaire, mais j'avais perdu mon emploi parce qu'il y avait une restructuration. Donc, j'ai perdu ce travail-là que j'aimais beaucoup, que j'adorais la mission. Mais bon, c'est à ce moment-là où j'ai eu à réfléchir à c'était quoi la suite pour moi. Donc, j'ai travaillé en milieu de garde, mais privé. Donc, j'étais dans une garderie privée à Québec qui fonctionne différemment. Parce que, bon, c'est sûr, c'est un organisme pour abus lucratif, ceux-là. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. Ben, qui influence certaines choses là, dans les milieux. Mais bref, j'ai aimé l'expérience là-bas. Puis je me suis dit, ben c'est ça que j'aime faire, en fait. Être avec les enfants, puis être à titre d'éducatrice, c'est ce que j'aime faire. Mais là, rendu là, ben, je n'avais pas le cours de reconnu. Donc, je suis allée faire ma reconnaissance d'acquis au Cégep. Donc, de ce fait-là, là, ben, j'ai un décalage en éducation à l'enfance, en poche. Donc, maintenant, c'est ça. Je suis rendue en CPE, là, après deux emplois dans des garderies privées. Ça s'est ouvert à moi, puis j'ai sauté sur l'occasion.
Donc, on peut dire que c'est vraiment le contact avec les enfants puis ton intérêt initial que tu as développé dans le cadre personnel, mais aussi en technique de travail social qui t'a amené vers l'éducation à la petite enfance.
Ouais.
Au niveau de la reconnaissance des acquis, combien de temps que ça t'a pris là, en tout et partout pour aller chercher le DEC?
C'était une bonne question parce que, c'est sûr, j'ai fait ça petit à petit. Certains le font plus rapidement. Si je ne me trompe pas, ça m'a pris comme 2 ans, mais c'est pas temps plein, là. C'était là les fins de semaine, par une période à la maison que je pouvais faire des travaux, tout ça. Fait que ça va être tranquillement. Puis j'ai fait ça aussi pendant mon premier congé de maternité. C'est ça. J'ai fait ça petit à petit, là. Quoique c'était quand même du travail, là. Fallait quand même s'asseoir puis prendre le temps de faire tout ça, c'est les travaux. Mais au bout du compte, j'étais vraiment contente de l'avoir.
Tu as parlé beaucoup du contact avec les enfants qui semble être vraiment le numéro un qui fait que tu apprécies ton travail. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font en sorte que tu apprécies justement beaucoup ce métier-là?
Le fait de pouvoir aider l'enfant autant en individuel qu'en groupe, c'est deux concepts que j'aime, là, autant être en animation de groupe que d'être un à un avec un enfant. Donc, ça j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi le travail d'équipe que j'ai avec mes collègues, là. C'est
c'est le fun de pouvoir compter les unes sur les autres, puis de pouvoir échanger aussi des fois que, ben, quand on se questionne sur certaines affaires. Puis l'autre chose que j'adore de mon travail, c'est d'aller dehors. Je me dis, il n'y a pas beaucoup de travail qui passe une belle heure minimum par jour à être dehors, profiter du beau temps, voir les enfants s'amuser dehors, autant été dans l'eau que l'hiver dans la neige, qui adore ça, tu sais. Ils sont tous illuminés de voir la neige qui tombe et tout ça. Donc, ça, je me trouve vraiment joyeuse d'avoir ça dans mon métier, vraiment, vraiment beaucoup.
Est-ce qu'il y a des choses, des éléments avant de te lancer dans ce métier-là que tu aurais aimé savoir ou qui t'ont surpris?
Bien, avoir su, je ne sais pas, autrefois, les garderies, c'était à 7 $, hein? Puis je ne sais pas en quelle année j'ai pensé que j'aurais pu être éducatrice, mais j'avais comme dans la tête, c'était on va gagner 7 $ par jour, tu sais. Drôle de logique que j'avais à cette époque-là, mais je me disais, ah, c'est bon, ben pas payant, je ne vais pas faire ça. Fait que c'est à ce moment-là que j'avais comme débuté l'idée d'être éducatrice. Puis bon, c'est par la suite que j'ai compris que le système, tout ça, là, mais donc ça, tu sais, quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Hein? Donc, avoir su, je pense que je me serais dirigée avant. D'un autre côté, tu sais, mon parcours. D'être passée par le travail social, bien, ça m'a apporté beaucoup d'autres sortes de compétences que peut-être d'autres éducatrices n'ont pas ou ont moins. Ou bon. Donc, j'ai comme peut-être une lunette supplémentaire dans mes connaissances. Fait que, c'est sûr, je pense que mon parcours m'aide malgré tout vraiment beaucoup dans mon travail. Ce que j'aurais aimé savoir aussi, c'est que je me rends compte que bien, ça prend beaucoup d'énergie, là. Quand même, notre métier, c'est quand même énergivore. Là. Donc, moi, rendu à le soir, mon énergie n'est pas forte, forte. Là. Fait que, c'est ça, faut comme avoir ça un peu en tête qu'on se dépense physiquement parce qu'on est dans l'action avec les enfants, mentalement, beaucoup aussi, ben, à se poser des questions, à, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là, à creuser la tête un peu. Donc, c'est ça, c'est assez énergivore. Puis, bien, c'est ça, rendu à la maison, la vie familiale, bien, la soirée n'est pas terminée. Hein, fait que l'énergie, il faut qu'elle soit là jusqu'à temps que ce soit l'heure de se coucher. Fait que c'est ça, il y a des soirs où je vais assez rapidement dans mon lit, là, puis je m'endors très, très rapidement. Je ne fais pas d'insomnie.
Ça m'amène une question, en fait, par rapport justement à la conciliation, bien, tu sais, travail, famille et tout ça, là. Tu sais, comment, justement, ben t'en as parlé un petit peu, tu sais, que t'étais fatiguée le soir, là, mais comment ça se passe en général, tu sais, justement, tu sais, tu passes ta journée avec des enfants, puis là, tu sais, t'arrives le soir, puis entre guillemets, le deuxième chiffre commence, comme les gens diraient, là. Fait que, tu sais, comment tu vis ça, comment ça se passe?
Ben, pour moi, ça a été une bonne adaptation, en fait, là, quand j'ai eu ma première. Quand j'ai été à retourner au travail, là, j'ai vraiment. Ça a été une période difficile pour nous. Là. C'était beaucoup, beaucoup d'adaptation. Mon conjoint à cette époque-là, il avait une horaire très atypique aussi. Donc, ça a été ça, vraiment pas très évident, mais on est allé chercher des conseils, puis on a mis en application des trucs. On a essayé des affaires, puis au fil du temps, on a réussi à trouver un plus d'équilibre, en tout cas, là, puis pour que ce soit ben, plaisant, là, qu'on soit dans le plaisir, que je le sois autant au travail que rendu à la maison. Là, fait que c'est sûr, ça a été de l'adaptation, quand même pas mal.
Puis, selon toi, ça serait quoi les principales qualités que ça prend pour être éducatrice à l'enfance?
Je pense qu'il faut avoir une bonne part de passion dans notre cœur, parce que des fois, on est confronté à des situations qui... nous bouleverse, là. Des fois, c'est ça. On peut vivre des affaires bouleversantes. Puis je pense que c'est de la passion qui nous ramène à cheminer, puis à continuer. Puis, tu sais, je vois des collègues qui sont plus âgés que moi qui en ont vu des choses, là, une puis une autre. Puis c'est ça, je pense que c'est vraiment... Chez elles, je sens vraiment beaucoup de passion. Donc, je pense que c'est ça, faut avoir une bonne part de ça. Ensuite de ça, bien, évidemment, de la patience. Faut prendre le temps avec les enfants parce que ça ne va pas à la vitesse qu'on souhaite, mais il faut aller à leur vitesse. Donc, la patience, du dynamisme, d'être disponible affectueusement aussi. Les enfants ont besoin de ça, de se sentir, avoir un lien d'attachement avec leur éducatrice, puis les remplaçantes aussi et toutes les autres personnes avec qui on travaille, mais que l'enfant peut se déposer au CPE, puis être en confiance, être bien, être en sécurité, puis pouvoir avoir le cœur facile à s'amuser, parce qu'on est, somme toute, beaucoup dans l'amusement. Puis il faut passer beaucoup par le plaisir pour que les enfants soient bien et aient envie de participer aux activités, aient envie d'être dans le jeu puis d'être avec les autres.
On vient de parler des qualités, les principales qualités là, qui sont liées. Y a-t-il des valeurs aussi qui sont primordiales dans le cadre là, de cette profession-là?
Ben, si je parle pour moi, il y a beaucoup de soucis d'équité. Parce que, comme j'ai nommé tout à l'heure, les enfants viennent de toutes sortes de milieux, de toutes sortes de vécus. Les enfants, il y a des garçons, il y a des filles, il y a de toutes sortes d'âges, donc il faut les prendre de façon équitable, les accueillir puis être là pour eux autres de façon équitable. Ça, pour moi, c'est très important, vraiment, vraiment beaucoup. Faut avoir le sens de la famille, là. C'est sûr que nous, on est là comme éducatrice, mais on travaille avec les enfants, mais aussi on est là pour les familles en réalité. Donc, il y a toute cette vision-là qu'il faut avoir de que c'est pas juste nous qui sommes là à être là pour le côté éducatif, mais tout le monde ensemble, la famille, puis même la communauté en réalité aussi. Donc, tout cet aspect-là.
Et est-ce qu'il y a des possibilités d'avancement ou de promotion dans ton métier?
Ben oui et non, parce qu'en fait, il n'y a pas de poste plus haut que d'être éducatrice. Là. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais en fait, quelqu'un qui voudrait peut-être aller plus à la gestion, la direction, ben je pense que ça peut être... Quelqu'un peut vouloir ça. En même temps, ça prend d'autres sortes de qualités. Donc, des fois plus administratives, gestion de personnes, de personnel. Donc, oui et non. Puis c'est sûr que ben par installation, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup de place à ça, mais c'est toujours possible.
Donc, quelqu'un à l'interne qui voudrait progresser pour être directrice d'un CPE devrait aller chercher une formation complémentaire, peut-être en administration?
Oui, je le croirais, oui.
Oui. Puis, est-ce que des fois, il y a des chefs d'équipe dans les éducatrices ou au contraire, là, c'est vraiment chaque éducatrice gère son groupe puis il y a une collaboration là, entre chaque collègue?
Bien, entre éducatrices, il n'y a pas de hiérarchie, là, en fait. Là. C'est vraiment plus... Puis, il y a aussi des conseils d'administration qui sont là, que c'est non lucratif, un CPE. Donc, c'est géré par un conseil d'administration, que c'est des gens principalement de la communauté ou parents des enfants là, du milieu. Donc, eux ont beaucoup de côté, le côté décisionnel du CPE avec l'aide de la direction. Donc, c'est eux... principalement là, qui vont voir à la gestion là, du CPE.
Le contexte 2021 fait en sorte qu'on est comme dans une vague là, de pénurie de places en garderie et en CPE. Au niveau du placement, après les études, est-ce que tu considères que c'est facile ou que c'est plus difficile? Comment tu te positionnes par rapport à ça?
Moi, je croirais que c'est plus que facile parce qu'il en manque vraiment beaucoup. C'est comme les remplaçantes, ça pleut pas là. Beaucoup de place. Puis, ben, avec les années aussi, ben, ils devraient, en principe, avoir plus de milieux de garde, là, si les gouvernements vont dans ce sens-là, bien sûr. Mais c'est sûr, ça va en prendre, là, des éducatrices tout à l'heure, là, quand tous ces milieux-là vont être installés et tout ça. Fait que c'est très, très facile, à mon avis, là, de se trouver un endroit.
Et on arrive à la fin de notre entrevue. En fait, en terminant, on aimerait savoir, est-ce que tu crois que la situation avec la COVID-19 va avoir des effets à long terme dans ton secteur?
Là, je ne suis pas une bonne porte-parole pour ça parce que je n'ai pas été là, moi, pendant la pandémie. J'étais en congé de maternité de mon deuxième enfant. Donc, ce n'est pas moi la meilleure pour pouvoir témoigner de ça. D'un autre côté, je pense que oui, vraiment, là. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de leçons à tirer, comme dans bien des minutes de travail. Puis, ben, je pense que ça va être vraiment pour le mieux, en fait. Là. Je pense vraiment que ça peut être bénéfique, les changements qu'il y aura à se placer. Mais c'est ça, je ne suis pas une bonne personne pour pouvoir en témoigner.
Mais en termes de quotidien, est-ce qu'il y a des choses qui sont applicables avec les enfants, qui sont différentes au niveau du quotidien avec les enfants?
Ben pour ma part, tu sais, mis à part la désinfection, le respect des bulles des bulles entre groupes. Il n'y a pas beaucoup d'impact là, au moment de la pandémie où on est rendu. Parce mm-hmm. qu'on recule, là, il y avait beaucoup plus de choses de mis en place, là, surtout dans les débuts. Là. Mais en ce moment, c'est quand même, c'est sûr, du moment où on respecte les bulles, puis on respecte les mesures d'hygiène, ben, il n'y a rien de vraiment supplémentaire.
C'est pas mal ce qui conclut là, notre entrevue aujourd'hui sur le podcast Mieux connaître, mieux choisir. Donc, on te remercie beaucoup là, d'avoir fait partie de cette capsule. Puis, ça nous a permis d'en apprendre davantage là, sur le mandat d'éducation là, à l'enfance. Merci beaucoup.
Ben, ça me fait plaisir.
Au nom du Carrefour Jeunesse Emploi et d'Accès Travail Portneuf, nous tenons à remercier tous nos invités ainsi que tous nos auditeurs. Au plaisir de vous revoir dans un prochain balado. Restez à l'affût.